Salut, mon ami Alex.
Salut, Jean-Philippe, comment vas-tu?
Très bien, toi-même?
Oh, ça va bien, je peux pas aller mieux. Je suis au parc Jarry avec du tennis derrière moi. Il fait beau avec des gens bien le fun autour de moi. Puis je parle avec un de mes chums, fait qu'il y a vraiment pas de raison de mal aller.
Dis-moi, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, quel est ton rôle exactement cette semaine à l'Omnium Banque Nationale?
Ben, t'es pas sans savoir que j'ai un podcast de tennis qui est également un show à la télé. On fait une version dérivée à la télé à TVA Sport. Alors, on est là pour alimenter nos plateformes. On enregistre des épisodes tous les matins où on revient sur ce qui s'est passé la veille et ce qui s'en vient pour la journée. Et puis, on fait des médias sociaux avec notre petite équipe. Mais je pense que si vous êtes un fan de tennis, vous avez pas mal tout ce que vous allez à savoir pour couvrir l'Omnium Banque Nationale en suivant nos plateformes.
Oui, puis nous, on se connaît depuis longtemps. Je sais que tu es un très, très grand connaisseur de tennis. Je posais la question juste avant que tu viennes en onde. Est-ce qu'on connaît le premier match de Leila Annie Fernandez qui vient tout juste de remporter Washington?
Oui, parce que le tirage au sort a été effectué là. Ça sera. Attends, mais je vais juste parce que là tu me prends.
T'apprends au dépourvu un peu, hein, excuse-moi.
Ben, je vais juste là. Elle va parler aux médias, mais je vais te le sortir là. Elle va jouer contre Maya Joint. C'est ça, j'avais oublié que je l'avais pas sous les yeux là, mais Maya Joint, elle est 37e mondiale. Elle a déjà joué contre Leila Annie Fernandez et Fernandez l'avait emporté. Ça se passait quand même.
C'est demain, ça, hein?
Officiellement, possiblement, oui.
OK. Pourquoi tu dis possiblement? T'as pas l'air sûr?
Ben, en théorie, là, je vais voir on verra l'horaire. Là,
ah, OK. Parce que, c'est comme pas officiel encore.
Comme tu sais, à moins que Tennis Canada l'a annoncé, là, mais j'avoue, j'avais pas le visage dans mes courriels.
OK, OK. Parce que c'est ça, on sort l'horaire à chaque jour, là, mais normalement, ça devrait être effectivement être mardi.
C'est surprenant qu'elle joue plus tard que ça,
là. OK, j'ai hâte de voir si le niveau de fatigue va être là.
Elle est en matinée autour de 10 heures, du moins c'est ce qu'on voit sur le site présentement.
Bon, 10 heures en matinée demain?
Elle a pratiqué à 9 heures ce matin.
Ici, ouais, demain.
OK, bon, on parle de demain, 10 heures, très bien. Juste avant, Alex, de te parler d'Eugénie Bouchard, j'aimerais revenir sur la fin de rencontre de Bianca Andreescu hier, OK? Puis là, je sais que je me suis pas fait juste des amis. Là, il y en a qui disent « Amen, GP, merci de dire ce que tout le monde pense. » Mais je sais que j'en ai peut-être dérangé quelques-uns. Mais je l'assume carrément, là, je m'assume entièrement. On a tous vu cette blessure à la cheville, là. Mais tu sais, c'était pas une fracture du péroné non plus, là. As-tu l'impression que Bianca met un petit peu trop de crémage parfois sur le gâteau?
Difficile à dire pour moi parce que moi, je manque une marche puis j'ai l'impression que je vais être blessé pour 6 mois. Là. Fait que c'est difficile à dire. Là. Je ne sais pas, Jean-Philippe, honnêtement, pour répondre à ta question parce que c'est difficile à dire. Des fois, ça prend pas grand-chose, un faux mouvement pour une blessure qui peut être pas mal plus grave qu'on pense. Là, j'ai l'impression que ce sera plus de peur que de mal dans le cas de Bianca, mais elle a pas parlé aux médias hier. Alors, c'était une blessure à la cheville et c'est la seule chose qu'on a su. Puis dans le cas de blessure, ben en général, les athlètes ont la possibilité de pas parler aux médias. C'est ce qu'elle a décidé de faire. Moi, j'ai l'impression qu'elle va au moins tenter de jouer son prochain match et voir comment ça va parce que elle est à Montréal, elle est chez elle et c'est quand même une grosse victoire là, ce qu'elle a fait hier. Là. C'est quand même pas banal là, de battre Barbora Krejčíková qui est multiple championne de Grand Chelem et qui était une des meilleures joueuses de double non seulement de sa génération mais de l'histoire. Là. Barbora Krejčíková, alors c'est quand même une adversaire de taille pour un premier tour puis elle va avoir quand même un bon défi également au prochain tour là, Andreescu parce qu'elle va affronter Andreeva. Alors Andreeva, c'est une des vedettes montantes du circuit, une top 5 mondiale et une fille qui a gagné des grands titres. Là, c'est vraiment, elle a pris d'assaut le tennis particulièrement cette année. Alors, moi, je pense qu'elle va quand même essayer de jouer, mais considérant la personne qu'elle a devant elle, peut-être que si ça va pas aussi bien dans le premier set, ben peut-être qu'elle va changer d'idée. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même plus de peur que de mal.
En tout cas, chose certaine, c'est pas une fracture. Là, si on lui a permis de terminer son match et d'aller chercher la victoire, là, fait que ça c'est une bonne nouvelle en soi. Là.
ça avait l'air souffrant, cela dit. On regardait des images à TVA Sport, là, quand la thérapeute lui faisait le taping, comme on dit, là, ça avait l'air quand même souffrant là, dans le cas de Bianca Andreescu.
Oui, souffrant. En tout cas, bon, tu sais ce que je pense. M'arrêter cela. Tiens, on va parler d'Eugénie, Alex, tiens. Qui débute son tournoi ce soir face à une Roumaine. Une Colombienne du nom de Emiliana Arango, qui a quand même un bon classement mondial. Sauf erreur, elle fait partie du top 50. Là. C'est pas une cliente facile pour Eugénie. Là.
Elle est top 100 mondial. Elle occupe présentement le 82e rang mondial, Emiliana Arango. C'est une fille qui a pas vraiment un parcours spectaculaire jusqu'à date, mais tu sais, ce qu'il faut pas oublier, là, c'est que dans le top 100, c'est pas mal plus serré que ce qu'on peut se penser, puis on en a déjà parlé, toi et moi, des fois, là, entre le 30e rang mondial puis le 95e rang mondial, la différence entre le niveau, elle est pas si grande que ça. Souvent, c'est plus au niveau de la constance, tournoi après tournoi, il va y avoir des différences, mais le niveau de joueur comme tel, il n'y a pas toujours une grosse différence en termes de niveau de jeu. Bon, Emiliana Arango, elle a quand même remporté des tournois cette année, là, celui de Cancun, qui est un tournoi un peu plus mineur là, sur le circuit ITF. Elle a fait la finale à Mérida, mais pour l'essentiel, elle fait surtout des premiers et deuxièmes tours dans des tournois WTA. En Grand Chelem, c'est la même chose. Alors, c'est quand même prenable pour une Eugénie qui va être portée par la foule. Maintenant, il faudra voir quel niveau elle aura, Eugénie, parce qu'elle a presque pas joué dans les dernières années, et elle a pas joué beaucoup cette année, là, pour pas dire pas, elle n'a que joué qu'un seul match officiellement. Là. Alors, j'ai hâte de voir dans quel...
Puis, écoute, ta question est bonne, puis je vais y aller avec une observation là, un peu nonone, là, mais qui fait peut-être du sens, OK? Parce qu'on sait qu'elle joue beaucoup au pickleball. D'ailleurs, j'étais surpris d'apprendre qu'elle est la 17e raquette mondiale en termes de pickleball, OK? Mais un terrain de pickleball est à peu près la moitié d'un terrain de tennis. Alors, t'as pas à couvrir le même espace. Donc, moi, je suis curieux de savoir si en termes de cardio, la transition entre le pickleball et le tennis va bien se faire.
C'est une bonne question. Je le sais pas, mais moi, je vais te répondre la chose suivante. Eugénie Bouchard, elle a joué au tennis toute sa vie, alors je suis pas très inquiet pour comment elle va gérer son cardio sur le terrain, là, pour être honnête. Là. Alors, maintenant, est-ce que c'est le même niveau de cardio? Difficile pour moi de le dire parce que je suis pas un joueur de pickleball et encore moins un joueur élite. Mais j'ai l'impression que, par contre, c'est beaucoup mieux que si elle était blessée ou si elle était restée sur les lignes de côté à ne pas jouer. Et moi, je pense que ça reste un avantage. Et je ne serais pas trop inquiet pour son niveau de fitness puis son niveau d'habileté sur le terrain. Là, ça ne m'inquiète pas vraiment dans ce cas-là. C'est plus son niveau d'habileté générale. Est-ce que dans les dernières années, elle a été dépassée, Eugénie, par plusieurs autres joueuses? Peut-être. Mais il reste que pour ce match-là, moi, je ne parierais pas nécessairement à 100% contre Eugénie. Je pense que même c'est prenable, surtout porté par une foule qui risque d'être endiablée ici à Montréal.
Il est arrivé au fil du temps que des Québécois donnent des ou des Canadiens là, donnent des grands spectacles au public montréalais. Je me rappelle d'un de tes reportages, là, Sébastien Leblanc, qui avait battu Gustavo Kuerten à l'époque. Il avait battu Nadal.
Ouais.
Imagine si Eugénie devait remporter son match de ce soir. Je pense pas qu'on peut comparer ça à ce que je viens de te nommer, là, mais n'empêche qu'il y aurait tout un feeling, tout un buzz au Stade du Géant.
Ben, il va en avoir un d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est absolument certain dans le cas d'Eugénie Bouchard. Là, elle pourrait jouer contre un épouvantail, puis il y aurait possiblement
un buzz
là. Tu sais, elle a cette façon d'attirer l'attention et de charmer les foules, Eugénie Bouchard. Puis pour vrai, honnêtement, c'est drôle parce que j'en parlais dans notre épisode. J'espère qu'on va lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre ce soir, parce que on a beau dire ce qu'on veut d'Eugénie Bouchard, mais c'est une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis canadien. Et ce qu'elle a fait, elle a pavé la voie pour la génération de joueuses qui ont suivi, les Bianca, etc., la génération qu'on voit. Ben, elle a montré que c'était possible d'aspirer à être championne de Grand Chelem parce qu'elle a fait la finale, elle a été top 5. Et je sais que beaucoup de monde lui ont reproché sa présence sur les médias sociaux, mais moi, je vais te dire une chose, il n'y a pas un coach on ou off the record, comme on dit dans le domaine, qui m'a dit que cette fille-là, c'était pas un bourreau de travail. Bon, est-ce qu'il lui manquait des armes au niveau tennis? Peut-être. Mais c'était pas une question de manque d'effort ou manque de travail. Il y a pas un coach ou un joueur ou une personne près de son entourage ou de Tennis Canada qui m'a déjà dit le contraire. Puis comme tu as dit, quand on enregistre ou quand qu'on enregistre pas là, tu sais, dans des conversations, bon, on dit là, souvent ça bat mal plus la vérité là. Puis il y a personne qui m'a dit le contraire. Puis ce qu'elle a fait, c'est absolument exceptionnel. Puis à tous ceux qui peuvent dire que bon, la considérer comme un flop là, pour utiliser le terme, sachez que dans les 20 dernières années là, il y a quoi 80 grands chelems qui ont été joués, il y a une soixantaine de joueuses différentes qui ont atteint la finale, 3 par année au monde. Quand tu fais quelque chose que 3 personnes au monde font par année là, ouais, à peu près en moyenne là,
puis a remporté Wimbledon Junior, a fait la finale à Wimbledon, a fait la demi-finale à Roland-Garros. Puis j'aurais quasiment le goût de défaire un autre mythe en ce qui concerne Eugénie, si tu me permets, Alex.
Ben oui.
Sur le fait qu'elle n'avait pas beaucoup de considération pour Montréal et pour le Québec comme tel. Et pour moi, de finir son parcours ici, de ramener Sylvain Bruneau, son premier entraîneur, à ses côtés, me prouve tout le contraire de ce mythe-là.
Ben, t'as 100% raison. Puis de toute façon, ce mythe-là était plus ou moins justifié quand on comprend la nature du tennis, parce que souvent, ça arrivait parce que, bon, à quelques reprises, elle avait fait l'impasse sur le tournoi de Québec à l'époque où il y en avait un. Puis ça a un peu commencé là, la réputation, parce que elle avait décidé de tourner de faire des tournois en Asie. Mais les tournois en Asie devaient possiblement allonger des sommes d'argent que les tournois ici n'étaient pas capables de faire, tu sais. Puis à un moment donné, ben, quand tu as une courte carrière, quand tu es un athlète professionnel, ben, tu vas essayer de maximiser tes gains, là. Alors, c'était pas mal plus financier comme décision qu'émotive. Parce que si, à paye égale, je peux te garantir qu'elle aurait joué à Québec, tu sais. Et puis, tu as 100% raison. Je pense que c'est une fille qui, malgré qu'il y a un niveau qui a grandi dans un milieu anglophone, qui a quand même un très bon français, elle est très attachée au Québec aussi. Ben, c'est une Montréalaise, là. Je veux dire, c'est pas, faut pas exclure ça, là, mais il reste que je suis d'accord avec toi. C'est une fille qui avait beaucoup de mythes autour d'elle qu'on fait bien déconstruire aujourd'hui, surtout ceux qui sont négatifs.
Et je sais qu'on a dit que l'hommage à Eugénie ne se ferait pas avant son match. Est-ce que l'hommage va se faire immédiatement après la rencontre si elle devait perdre?
C'est une bonne question, parce qu'il y a quand même un match qui
joue après,
suivre par la suite, mais ouais. Peut-être bien. On le voit ici et là dans les tournois où il y a des hommages qui se font tout de suite après.
Mais on l'a vu hier à Toronto avec Vacek Pospisil, dont le tournoi, ben dont voilà, le parcours est terminé.
Exact. Fait que ça te donne une bonne indication de qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer. Mais écoute, moi je la mets pas battue d'avance Eugénie Bouchard ce soir. Je pense que ça reste quand même prenable pour Eugénie. On verra. Mais j'ai l'impression que faut vraiment pas l'avoir battue d'avance Eugénie.
En tout cas, on a bien hâte de suivre ça. Je te parlais de Vacek. C'est drôle. J'avais décrit le Challenger de Granby en 2012. Et la gagnante
toi,
chez les
dames. Avec Eugénie?
Ben oui, la gagnante avait été Eugénie chez les hommes et Vacek chez Eugénie chez les dames et Vacek chez les hommes. Et donc, c'est drôle parce qu'ils tirent leur révérence pas mal en même temps. Alors, ils ont fait leur début en même temps puis ils quittent pas mal en même temps, tu sais.
Ben, t'as raison, puis c'est exactement ça. Puis j'ai eu la même référence avec mon collègue Hugues Léger, que tu connais bien également. Alors, je me disais, ben c'est drôle parce que les deux avaient gagné le tournoi de Granby ensemble. Puis Eugénie arrivait de sa victoire
à Wimbledon Junior.
Chez les juniors, exactement. Ouais. Puis par la suite, elle arrivait comme vedette, elle gagne le tournoi, c'était contre Stéphanie Dubois, si je me trompe pas, en finale. Puis Vacek, lui, ben après, est aller connaître une belle carrière également, là, tu sais. Vacek, c'est un champion de Grand Chelem en double, c'est un champion de la Coupe Davis. Par ailleurs, Eugénie aussi est une championne de la Coupe Billie Jean King. Il faisait partie de cette équipe-là également. Alors, ils sont les deux champions du monde à jamais dans des coupes particulièrement prestigieuses. Alors, c'est pas banal ce que ces deux-là ont réussi, puis il faudrait pas sous-estimer ce qu'ils ont fait, parce que c'est toujours l'exemple que je donne, tu sais, par rapport au hockey. Mettons, mettons que tu es 200e mondial, là, un joueur comme Alexis Gallardo, par exemple, ben, quand tu es 200e mondial au hockey, là, tu jouerais sur les deux premiers trios ou les deux premiers pairings de défenseurs d'une équipe de la Ligue nationale. Là. Puis tu fais 5 à 10 millions par année. Là. Tu sais, puis quand t'as un gars comme Vachek qui était autour de la 50e place mondiale, ça te donne l'équivalent d'un joueur de premier trio là, dans la Ligue nationale de hockey. Alors, faut pas minimiser ce que ces athlètes-là ont fait parce que c'est quand même assez spectaculaire et ils l'ont réussi aussi pour l'essentiel seuls. Et c'est la première génération, hein, par ailleurs, de Vachek et Eugénie. Là, c'est cette première génération-là du Centre national de tennis quand on a décidé de réunir tous les athlètes au même endroit là, pour qu'ils performent ensemble. Et visiblement, c'est une recette qui a fonctionné assez rapidement.
Absolument. Juste avant de te laisser filer, Alex, je suis curieux de savoir ce que tu penses de la nouvelle mouture du tournoi, de la nouvelle structure avec plus de joueurs et une formule qui s'échelonne sur deux semaines, un peu comme on le voit dans les tournois majeurs. Est-ce que tu vas me dire que ça fera jamais trop de tennis, mais est-ce que la formule risque de plaire aux amateurs?
Ben ça dépend si aux amateurs, j'ai l'impression que oui, parce que t'as effectivement plus de possibilités de tennis, plus de possibilités de voir des grands joueurs. Ça donne pour les organisateurs aussi plus de flexibilité. Bon, s'il y a de la pluie, ben on a des journées de congé entre les matchs. Alors c'est beaucoup plus facile de réorganiser les horaires. Je pense que les joueurs aussi l'apprécient plus parce que ça leur donne beaucoup plus de flexibilité s'il y a des problèmes justement avec la température et à Montréal et à Toronto, dans les dernières années, on a eu de la pluie à peu près à chaque année. Là. Alors, je pense que ça va faciliter les choses autant pour les joueurs que pour l'organisation. Puis pour le partisan, ben, t'as une semaine et demie, t'as quasiment une semaine de plus de tennis qu'on avait. Alors, je pense que tout le monde est gagnant dans cette situation-là.
Bien, mon ami Alex, un gros merci pour ton temps. Moi, je serai à Toronto dans les prochains jours pour le volet masculin. Alors, on aura peut-être la chance de se reparler. Un gros merci. Bon tournoi. Qu'est-ce que t'as au menu aujourd'hui? Tu me disais qu'il y avait des conférences de presse?
Oui, il y a des conférences de presse. Là, au moment où on se parle, Leila Fernandez doit avoir pris le podium là, et quelqu'un de mon équipe qui doit être en train d'enregistrer cette conférence de presse-là.
Je te le souhaite.
Et puis, ben, en théorie, oui. Et puis, ben, on va regarder les matchs. On a enregistré notre café OBN également, qui est notre mise en bouche, et on va faire le match en direct d'Eugénie ce soir sur nos plateformes.
Bon, ben, on prendra le café ensemble la semaine prochaine, Alex.
Ça me fera un grand plaisir.
All right, on se parle bientôt.
OK, bye-bye.
Bye-bye. Alors voilà Alex Régimbald qui travaille pour Tennis Canada. Il y a un podcast qui est disponible pour les amateurs de tennis. Parlant d'amateurs de tennis, je vous lis sa messagerie texte, puis il y en a un paquet. Vous me dites, là, enfin on parle de tennis, enfin on parle de tennis. Certains enfin qu'on parle de tennis, puis on va en parler tout au long de la semaine.